Cinquième point, Jésus de Nazareth manifesté dans l'Esprit Saint. Même si dans sa propre ville de Nazareth, Jésus n'est pas reconnu comme Messie, sa mission messianique dans l'Esprit Saint est cependant révélée au peuple par Jean-Baptiste au commencement de son activité publique. Au bord du Jourdain, Jean, fils de Zacharie et d'Élisabeth, annonce la venue du Messie et administre le baptême de pénitence. Il dit: Pour moi, je vous baptise avec de l'eau, mais vient plus fort que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Jean-Baptiste annonce le Messie Christ non seulement comme celui qui vient dans l'Esprit Saint, mais aussi comme celui qui porte l'Esprit Saint, comme Jésus le révélera mieux au Cénacle. Jean se fait ici l'écho fidèle des paroles d'Isaïe, qui concernait l'avenir chez le prophète ancien, tandis que dans son enseignement sur les rives du Jourdain, elle constitue l'introduction immédiate à la réalité messianique nouvelle. Jean n'est pas seulement prophète, il est aussi messager. Il est le précurseur du Christ. Ce qu'il annonce se réalise aux yeux de tous. Jésus de Nazareth vient au Jourdain pour recevoir, lui aussi, le baptême de pénitence. En voyant celui qui arrive, Jean proclame: Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il dit cela sous l'inspiration du Saint-Esprit et rend témoignage à l'accomplissement de la prophétie d'Isaïe. En même temps, il proclame la foi en la mission rédemptrice de Jésus de Nazareth. Sur les lèvres de Jean-Baptiste, agneau de Dieu est une expression de la vérité sur le Rédempteur qui n'a pas moins de portée que celle de serviteur du Seigneur. Ainsi, par le témoignage de Jean au Jourdain, Jésus de Nazareth, rejeté par ses compatriotes, se trouve manifesté aux yeux d'Israël comme le Messie, c'est-à-dire loin de l'Esprit Saint. Et ce témoignage est confirmé par un autre témoignage supérieur, mentionné par les trois synoptiques. En effet, quand tout le peuple fut baptisé et tandis que Jésus, ayant reçu le baptême, se trouvait en prière, le ciel s'ouvrit et l'Esprit Saint descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et, en même temps, voici qu'une voix venue des cieux disait: Celui-ci est mon fils bien-aimé, qui a toute ma faveur. C'est une théophanie trinitaire qui est un témoignage rendu à la glorification du Christ à l'occasion de son baptême dans le Jourdain. Non seulement elle confirme le témoignage de Jean-Baptiste, mais elle dévoile une dimension encore plus profonde de la vérité de Jésus de Nazareth comme Messie. Il est dit: Le Messie est le fils bien-aimé du Père. Son investiture solennelle ne se réduit pas à la mission messianique du serviteur du Seigneur. À la lumière de la théophanie du Jourdain, c'est le mystère de la personne même du Messie qui est exalté. Il est glorifié parce qu'il est fils de la complaisance divine. La voix d'en haut dit: Mon fils. La théophanie du Jourdain n'éclaire que fugitivement le mystère du Jésus de Nazareth, dont toute l'activité se déroulera en présence de l'Esprit Saint. Ce mystère sera révélé par Jésus lui-même et peu à peu confirmé à travers tout ce qu'il a fait et enseigné. Dans la ligne de cet enseignement et des signes messianiques que Jésus accomplit avant de parvenir au discours d'adieu du Cénacle, nous rencontrons des événements et des paroles qui représentent des moments particulièrement importants de cette révélation progressive. Ainsi, l'évangéliste Luc, qui a déjà présenté Jésus, rempli d'Esprit Saint, et mené par l'Esprit à travers le désert, nous apprend que, après le retour des 72 disciples de la mission que le Maître leur avait confiée, alors que tout joyeux ils décrivaient le fruit de leur travail, à cet heure même, Jésus tressaillit de joie sous l'action de l'Esprit Saint et dit: Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents, et de l'avoir révélé aux tout-petits. Oui, Père, car tel a été ton bon plaisir. Jésus exulte à cause de la paternité divine. Il exulte parce qu'il est donné de révéler cette paternité. Il exulte, enfin, parce qu'il y a comme un rayonnement particulier de cette paternité divine sur les petits. Et l'évangéliste qualifie tout cela de tressaillement de joie dans l'Esprit Saint. Un tel tressaillement de joie, en un sens, entraîne Jésus à dire encore davantage. Écoutons. Tout m'a été remis par mon Père. Et nul ne sait qui est le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Ce qui, au cours de la théophanie du Jourdain, est venu, pour ainsi dire, de l'extérieur, d'en haut, provient ici de l'intérieur, c'est-à-dire du plus profond de ce qu'est Jésus. C'est une autre révélation du Père et du Fils, unis dans l'Esprit Saint. Jésus parle seulement de la paternité de Dieu et de sa propre filiation. Il ne parle pas explicitement de l'Esprit, qui est amour, et par là, union du Père et du Fils. Néanmoins, ce qu'il dit du Père et de lui-même comme Fils résulte de la plénitude de l'Esprit qui est en lui, qui remplit son cœur, pénètre son moi, inspire et vivifie en profondeur son action. De là, ce tressaillement de joie dans l'Esprit Saint, l'union du Christ avec l'Esprit Saint dont il a une parfaite conscience, s'exprime dans ce tressaillement de joie qui, en un sens, rend perceptible sa source secrète. Il en résulte une manifestation et une exaltation particulière qui sont propres au Fils de l'homme, au Christ Messie, dont l'humanité appartient à la personne du Fils de Dieu, substantiellement un avec l'Esprit Saint dans la divinité. Dans sa magnifique confession de la paternité de Dieu, Jésus de Nazareth se manifeste aussi lui-même. Il manifeste son moi divin. Il est en effet le Fils de la même substance. C'est pourquoi nul ne sait qui est le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils. Ce Fils qui, pour nous et pour notre salut, s'est fait homme par l'Esprit Saint et est né d'une Vierge dont le nom était Marie. Point numéro 6. Recevez l'Esprit Saint, dit le Christ ressuscité. Grâce à son récit, Luc nous conduit à un point extrêmement proche de la vérité comprise dans le discours du Cénacle. Jésus de Nazareth, exalté dans l'Esprit Saint, se présente au cours de ce discours et de cet entretien comme celui qui porte l'Esprit, comme celui qui doit le porter et le donner aux apôtres et à l'Église au prix de son départ par la croix. Par le verbe « porter », on entend ici avant tout « révéler ». L'Ancien Testament, depuis le livre de la Genèse, a fait connaître en quelque sorte l'Esprit de Dieu, d'abord comme le souffle de Dieu qui lui donne la vie, comme un souffle vital, surnaturel. Dans le livre d'Isaïe, il est présenté comme un don pour la personne du Messie, comme celui qui vient sur lui pour guider de l'intérieur toute son activité salvifique. Au bord du Jourdain, l'annonce d'Isaïe a revêtu une forme concrète. Jésus de Nazareth est celui qui vient dans l'Esprit Saint et le porte comme le don de sa propre personne même, pour le répandre grâce à son humanité. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. Dans l'évangile de Luc, cette révélation de l'Esprit Saint est confirmée et enrichie, présentée comme la source intime de la vie et de l'action messianique de Jésus-Christ. À la lumière de ce que Jésus dit dans le discours après la scène, l'Esprit Saint est révélé d'une manière nouvelle et plus ample. Il n'est pas seulement le don à la personne, mais il est une personne don. Jésus annonce sa venue comme celle d'un autre paraclète, qui, étant l'esprit de vérité, conduira les apôtres et l'Église à la vérité tout entière. Cela s'accomplira en raison de la communion particulière qui existe entre l'Esprit Saint et le Christ. C'est de mon bien qu'il recevra, et il vous le dévoilera. Cette communion a sa source première dans le Père. Tout ce qu'a le Père est à moi. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est de mon bien qu'il reçoit et qu'il vous le dévoilera. Venant du Père, l'Esprit Saint est envoyé d'auprès du Père. L'Esprit Saint a d'abord été envoyé comme un don au Fils qui s'est fait homme pour accomplir les prophéties messianiques. Après le départ du Christ-Fils, suivant le texte joannique, l'Esprit Saint viendra directement, c'est sa mission nouvelle, pour achever l'œuvre du Fils. Ainsi, c'est lui qui mènera à son accomplissement l'ère nouvelle de l'histoire du salut. Nous nous trouvons au seuil de l'événement pascal. La révélation nouvelle et définitive de l'Esprit Saint comme personne, qui est le don, s'accomplit précisément à ce moment. Les événements de Pâques, la Passion, la mort et la résurrection du Christ, sont aussi le temps de la nouvelle venue de l'Esprit Saint comme paraclète et esprit de vérité. C'est le temps du nouveau commencement, du don que Dieu, un et trine, fait de lui-même à l'humanité dans l'Esprit Saint, par l'action du Christ rédempteur. Ce nouveau commencement est la rédemption du monde, car Dieu a tant aimé le monde qu'il qu'il a donné son fils unique. Déjà, dans le fait de donner, le Fils, dans le don du Fils, s'exprime l'essence de la plus profonde de Dieu, qui, comme amour, est une source inépuisable de libéralité. Dans le don fait par le Fils, s'achève la révélation et la libéralité de l'amour éternel, l'Esprit Saint, qui dans les profondeurs insondables de la divinité est une personne don, par l'œuvre du Fils, c'est-à-dire par le mystère pascal, est donné d'une manière nouvelle aux apôtres et à l'Église, et à travers eux, à l'humanité et au monde entier. L'expression définitive de ce mystère apparaît le jour de la résurrection. En ce jour, Jésus de Nazareth, issu de la lignée de David selon la chair, comme l'écrit l'apôtre Paul, est établi fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection des morts. On peut donc dire que l'exaltation messianique du Christ dans l'Esprit Saint atteint son sommet dans la résurrection. Il se révèle alors comme fils de Dieu, rempli de puissance. Et cette puissance, dont les sources jaillissent dans l'insondable communion trinitaire, se manifeste avant tout dans le fait que, si, d'une part, le Christ ressuscité réalise la promesse de Dieu déjà exprimée par la voix du prophète, « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, mon esprit. » D'autre part, il accomplit sa promesse faite aux apôtres par ces mots, « Si je pars, je vous l'enverrai. » C'est lui, l'esprit de vérité, le paraclète envoyé par le Christ ressuscité pour nous transformer et faire de nous l'image même du ressuscité. Écoutons. Le soir, ce même jour, le premier de la semaine, et les portes étant closes, là où se trouvaient les disciples, par peur des Juifs, Jésus vint et se tint au milieu. Et il leur dit, « Paix à vous !» Ayant dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie à la vue du Seigneur. Il leur dit alors, de nouveau, « Paix à vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Et en dit cela, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. » Tous les détails de ce texte, clé de l'évangile de Jean, ont une réelle portée, spécialement si nous les relisons en relation avec les paroles prononcées dans le même cénacle au début des événements de Pâques. Désormais, ces événements, le Triduum Sacrum de Jésus que le Père a consacré par l'onction et envoyé dans le monde, atteignent leur achèvement. Le Christ, qui avait remis l'Esprit sur la croix, comme Fils de l'homme et anneau du Dieu, une fois ressuscité, va vers les apôtres pour souffler sur eux, avec la puissance dont parle la lettre aux Romains. La venue du Seigneur remplit de joie ceux qui sont présents. Leur tristesse se change en joie, comme il l'avait déjà promis lui-même avant sa passion. Et surtout, l'annonce essentielle du discours d'adieu se réalise. Le Christ ressuscité, comme inaugurant une création nouvelle, porte aux apôtres l'Esprit Saint. Il le leur porte au prix de son départ. Il leur donne cet esprit, en quelque sorte, à travers les plaies de sa crucifixion. Il leur montra ses mains et son côté. C'est en vertu de cette crucifixion qu'il a dit « Recevez l'Esprit Saint ». Un lien étroit s'établit entre l'envoi du Fils et celui de l'Esprit Saint. L'envoi de l'Esprit Saint, après le péché originel, ne peut avoir lieu sans la croix et la résurrection. Si je ne pars pas, le paraclète ne viendra pas vers vous. Un lien étroit s'établit entre la mission de l'Esprit Saint et celle du Fils dans la rédemption. La mission du Fils, en un sens, trouve son achèvement dans la rédemption. La mission de l'Esprit Saint découle de la rédemption. C'est de mon bien qu'il reçoit, et il vous le dévoilera. La rédemption est accomplie pleinement par le Fils, comme loin, qui est venu et agit par la puissance de l'Esprit Saint, s'offrant lui-même à la fin en sacrifice suprême sur la voie de la croix. Et cette rédemption est aussi accomplie continuellement dans les cœurs et les consciences des hommes, dans l'écriture du monde, par l'Esprit Saint, qui est l'autre paraclète. Point numéro 7. L'Esprit Saint et le temps de l'Église. Une fois achevée l'œuvre que le Père avait chargé son Fils d'accomplir sur la terre, le jour de la Pentecôte, l'Esprit Saint fut envoyé qui devait sanctifier l'Église en permanence et procurer ainsi aux croyants, par le Christ, dans l'unique esprit, l'accès auprès du Père. C'est lui, l'esprit de vie, la source d'eau jaillissant pour la vie éternelle, par qui le Père donne la vie aux hommes que le péché avait fait mourir, en attendant de ressusciter dans le Christ leur corps mortel. C'est ainsi que le Concile Vatican II parle de la naissance de l'Église le jour de la Pentecôte. L'événement de la Pentecôte constitue la manifestation définitive de ce qui s'était accompli dans le même cénacle dès le dimanche de Pâques. Le Christ ressuscité vint et porta aux apôtres l'Esprit Saint. Il leur donna en disant « Recevez l'Esprit Saint ». Ce qui s'était produit alors à l'intérieur du cénacle, les portes closes, plus tard, le jour de la Pentecôte, fut manifesté aussi à l'extérieur devant les hommes. Les portes du cénacle s'ouvrent et les apôtres se dirigent vers les habitants et les pèlerins rassemblés à Jérusalem à l'occasion de la fête, pour rendre témoignage au Christ par la puissance de l'Esprit Saint. Ainsi se réalise la parole de Jésus. Il me rendra témoignage, mais vous aussi vous témoignerez, parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. Nous lisons dans un autre document du Concile Vatican II, sans aucun doute, le Saint-Esprit était déjà à l'œuvre dans le monde avant la glorification du Christ. Pourtant, le jour de la Pentecôte, il descendit sur les disciples pour demeurer avec eux à jamais. L'Église se manifesta publiquement devant la multitude. La diffusion de l'Évangile commença avec la prédication parmi les païens. Le temps de l'Église a commencé par la venue, c'est-à-dire par la descente de l'Esprit-Saint sur les apôtres réunis au Cénacle de Jérusalem avec Marie, la Mère du Seigneur. Le temps de l'Église a commencé au moment où les promesses et les prophéties qui se rapportaient de manière très explicite au Paraclète, à l'Esprit de vérité, ont commencé à se réaliser sur les apôtres avec puissance et de toute évidence, déterminant ainsi la naissance de l'Église. Les actes des apôtres parlent de cela fréquemment, en de nombreux passages. Il en résulte que, suivant la conscience de la communauté primitive dont Luc exprime les certitudes, l'Esprit-Saint a assuré la conduite, de manière invisible, mais d'une certaine façon perceptible, de ceux qui, après le départ du Seigneur Jésus, avaient profondément le sentiment d'être restés orphelins. Par la venue de l'Esprit-Saint, ils se sont sentis aptes à accomplir la mission qui leur avait été confiée. Ils se sont sentis pleins de force. C'est là précisément l'action de l'Esprit-Saint en eux, et c'est son action constante dans l'Église par leurs successeurs. En effet, la grâce de l'Esprit-Saint, que les apôtres ont donnée à leurs collaborateurs par l'imposition des mains, continue à être transmise par l'ordination épiscopale. Puis, par le sacrement de l'ordre, les évêques font participer les ministres sacrés à ce don spirituel, et ils font en sorte que tous ceux qui se sont renés de l'eau et de l'Esprit en soient fortifiés par le sacrement de la confirmation. D'une certaine façon, la grâce de la Pentecôte est ainsi perpétuée par l'Église. Comme l'écrit le Concile, l'Esprit demeure dans l'Église et dans le cœur des fidèles comme dans un temple. En eux, ils prient et ils attestent leur condition de fils de Dieu par adoption. Cette Église, qu'il introduit dans la vérité tout entière, qu'il unifie par la communion et le ministère, l'Esprit lui fournit ses moyens d'action et la dirige par la diversité de ses dons hiérarchiques et charismatiques, et il l'embellit par ses fruits. Par la vertu de l'Évangile, il rajeunit l'Église et il la renouvelle sans cesse, l'acheminant à l'union parfaite avec son époux. Les passages cités de la constitution conciliaire Lugum Gentium nous disent que, par la venue de l'Esprit-Saint, commença le temps de l'Église. Ils nous disent aussi que ce temps, le temps de l'Église, continue. Il dure au cours des siècles et des générations. En notre siècle, où l'humanité est désormais proche de la fin du deuxième millénaire après le Christ, ce temps de l'Église a été particulièrement exprimé dans le Concile Vatican II, le concile de notre siècle. On sait, en effet, qu'il a été spécialement un concile ecclésiologique, un concile sur le thème de l'Église. En même temps, l'enseignement de ce concile est essentiellement pneumatologique, pénétré de la vérité sur l'Esprit-Saint, âme de l'Église. Nous pouvons dire que, dans la richesse de son magistère, le Concile Vatican II contient à proprement parler tout ce que l'Esprit dit aux Églises. en fonction de la période actuelle de l'histoire du salut. Guidé par l'esprit de vérité et rendant témoignage avec lui, le Concile a donné une particulière confirmation de la présence de l'Esprit Saint Paraclète. En un sens, il l'a rendu nouvellement présent dans notre époque difficile. On comprend mieux, à la lumière de cette conviction, la grande importance de toutes les initiatives tendant à la réalisation de Vatican II, de son magistère et de sa visée pastorale et œcuménique. Dans cette perspective, il convient de prendre en considération et d'apprécier les assemblées du synode des évêques, réunies par la suite, qui ont eu pour but de permettre que les fruits de la vérité et de l'amour, les fruits authentiques de l'Esprit-Saint, deviennent un bien durable du peuple de Dieu dans son pèlerinage terrestre au cours des siècles. Ce travail de l'Église est indispensable, car il est destiné à vérifier et à consolider les fruits salvifiques de l'Esprit accordé au Concile. À cette fin, il est nécessaire de savoir les discerner attentivement par rapport à tout ce qui peut, au contraire, provenir en premier lieu du prince de ce monde. Ce discernement est d'autant plus nécessaire dans la réalisation de l'œuvre du Concile, que celui-ci s'est largement ouvert au monde contemporain, comme on le voit clairement dans les constitutions importantes Gaudium et Spes et Lumen Gentium. Nous lisons dans la constitution pastorale, leur communauté, celle des disciples du Christ, s'édifie avec des hommes, rassemblés dans le Christ, conduits par l'Esprit Saint dans leur marche vers le royaume du Père, et porteurs d'un message de salut qu'il leur faut proposer à tous. La communauté des chrétiens se reconnaît donc réellement et intimement solidaire du genre humain et de son histoire. L'Église sait parfaitement que Dieu seul, dont elle est la servante, répond au plus profond désir du cœur humain, que jamais ne rassasie pleinement les nourritures terrestres. L'Esprit de Dieu, par une providence admirable, conduit le cours des temps et rénove la face de la terre. Fin de la première partie.